Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Bien-être tous les jours de 11h à 12h30. Merci d'être avec nous. Alors tout de suite, nous attaquons la partie tendance de l'émission et d'ailleurs nos trois chroniqueurs du jour nous ont rejoints en studio. Il y a d'abord le chef Grégory Cuiron pour la chronique gastronomie. Alors Grégory, que va-t-on déguster aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on va parler de papillotes de clémentine, mais la recette n'aura rien à voir, je garde la surprise.
Ah, j'adore ce teasing. Il y a également autour de la table Soizic Belin, notre spécialiste loisirs dans Bienfait pour vous. Alors Soizic, je crois que vous êtes d'humeur joueuse hein, ce midi.
C'est ça. Et puis je suis la spécialiste aussi des bars à quelque chose.
Hein, voilà. À chat, à sourcil, à
quoi aujourd'hui?
À jeu aujourd'hui.
Ah, très bien.
Et puis enfin, on l'a dit, cette semaine, nos chroniqueurs tendance hein, nous proposent des objets, des conseils et des livres avec vous, Nathalie Le Breton. Des livres qui ont l'esprit de Noël, c'est bien ça?
Et oui, parce que l'excitation est en train de monter fortement, donc j'ai de quoi calmer un petit peu cette excitation et puis entretenir la magie.
Génial. Merci beaucoup Nathalie, ce sera à vous d'entrer très peu de temps, mais l'esprit de Noël, je crois que pour le moment, il va être dans notre assiette, car il est temps de passer à la chronique gastronomie de Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Ah Grégory, je suis très contente hein, du produit que vous avez choisi aujourd'hui de nous présenter. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, alors je vous écoute, faites-nous rêver. Hein.
Oui, je vais tâcher de vous faire rêver, il y a même un petit conte pour vous, enfin vous verrez. Noël, le givre sur les fenêtres, l'odeur du sapin, du feu de cheminée et les papillotes. Est-ce que vous connaissez les papillotes?
Mais oui.
À Lyon.
Bah oui, oui.
Nathalie est une ancienne lyonnaise.
Voilà, une lyonnaise repentie. Et donc oui, bien évidemment, c'est lyonnais. Donc alors, pour les béotiens,
moi,
la
je
papillote...
Moi je sais pas ce que c'est, ouais, je n'osais pas le dire, bah, du coup.
Voilà. Non plus, hein,
tout le monde avait l'air de connaître. J'ai fait, moi je connais les papillotes de saumon, ça n'a rien à voir, j'imagine.
Alors, ça vient de là, mais, mais c'est, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est un chocolat entouré d'un papier doré, par exemple. À l'intérieur duquel se cache le plus généralement une blague,
ah,
un peu comme dans un carambar.
Ben ça va, oui, je connais. Voilà. Je sentais un autre truc.
Casio, toutes les deux.
Et ça vient d'où?
Vous faites bien la surprise. Alors, un petit peu d'histoire quand même. Au XVIIe siècle, le commis d'une chocolaterie éperdument amoureux de la belle voisine qui habitait au-dessus de la boutique cherchait un moyen de lui faire passer des mots doux discrètement afin que son père ne les intercepte pas. Donc il eut l'idée d'enrouler ses missives autour des friandises afin de les faire passer pour un emballage. Alors, le père n'a rien remarqué, mais son patron, un certain monsieur Papillot, si.
Ah
bah ouais. Alors monsieur Papillot, il se dit, oula, on tient quelque chose.
Ouais, pas mal d'idées. Hein.
Donc ce qu'il fait, c'est qu'il remplace les mots doux par des plaisanteries. La papillote est née, tout simplement. Donc je vous sens un peu tendu, bah, vous avez envie de connaître
la fin.
On
peut plus, on veut... ouais, c'est ça.
Mon Dieu, que se passe-t-il? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux fins alternatives. L'une bonne, où il épouse la belle. L'autre, où il est viré. Moi, je pense que les deux sont aussi probables. Ça peut, il peut avoir été viré et avoir épousé la belle. Mais en tout cas, il n'a pas fini chocolatier.
Donc, on va cuisiner du chocolat.
Alors, du chocolat des papillotes, eh bien, pas du tout.
Ah,
ah ben oui,
toute
ben non.
Cette histoire pour finir sur autre chose.
Exactement, vous voyez. Alors, je préfère vous prévenir, le rapport est un peu tiré par les cheveux.
Ok.
Il se trouve que les chocolats, à Noël, généralement, ça se mange avec des clémentines.
Mm-hmm.
Donc, les clémentines, merveilleux petit agrume. Au goût légèrement acidulé, magnifique produit lorsqu'il nous vient de Corse et source de vitamines non négligeables en hiver. Nous allons ainsi cuisiner aujourd'hui des noix de Saint-Jacques.
Rien à voir, effectivement.
Avec une compotée de clémentine aux épices.
Ah, c'est ça le rapport.
Mais oui.
Et on va pas du tout avoir de chocolat.
Alors non, pas, pas du tout. Parce que, alors, la papillote, c'était pour la belle petite histoire de Noël. Et puis, j'ai rien trouvé de sympa à raconter sur la noix de Saint-Jacques. Si ce n'est le dème de couinque de tonton Robert au réveillon 76 après avoir mangé une cassolette de la mer. Donc je pense que ça n'intéresse personne.
Bon, alors la noix de Saint-Jacques.
Alors la noix de Saint-Jacques, déjà.
On l'aime elle aussi quand même.
On l'aime, ouais. On l'aime d'amour, ça plaît à tout le monde. Et je dois avouer que les filles... Quand on reçoit une fille qu'on a envie de séduire, la noix de Saint-Jacques, ça marche à
mais
chaque fois.
Vous avez... C'est drôle, mon mari m'a fait ça, je pense, dans les premiers plats qu'il vous fait.
Mais oui,
vous
fait des noix.
Je trouve que c'est un objet de séduction, la noix de Saint-Jacques.
Et je suis prêt
hein.
À
un
parier.
Un mec qui sait cuisiner les noix de Saint-Jacques, on se dit, c'est un mec bien.
Oui. Non, vous trouvez pas, Nathalie, tout en finesse, vous voulez dire.
Moi, il m'a fait
avec
du
un peu d'ail.
C'est pas mal aussi. Mais il y a deux trucs qui marchent systématiquement, c'est la noix de Saint-Jacques et le risotto.
J'avoue.
Pour emballer, il n'y a pas mieux.
Ah oui, c'est clair.
Alors, un risotto noix de Saint-Jacques, je vous raconte pas, là, c'est succès assuré.
C'est mariage direct.
Exactement. Donc, pour quand même en revenir à la noix de Saint-Jacques, elle est pêchée en France dans les eaux froides de Bretagne, de Normandie ou encore du Pas-de-Calais, du 1er octobre au 15 mai. Mmh. Alors moi, j'insiste, il vaut mieux prendre des noix de Saint-Jacques de plongée, parce que sinon c'est du dragage, et le dragage c'est une technique où on fait passer un
profil les fonds marins.
Ça ruine les fonds marins, exactement. Donc moi j'ai une tendresse particulière pour les noix de la baie de Saint-Brieuc, je les trouve particulièrement bonnes.
Vous avez raison, elles sont délicieuses.
Et vous avez une recette ou pas là?
J'espère.
Oui, je suis venu avec une recette.
Pour emballer comme vous dites.
Exactement, alors on n'emballe pas à Noël parce qu'en général c'est plutôt les cousines qui sont là, c'est pas très sain.
Ou la belle-sœur, ou la belle-sœur, ou le beau-frère.
Ça peut créer deux, trois soucis familiaux.
C'est ça. Mais pour faire plaisir à tout le monde, qu'est-ce qu'on peut cuisiner alors?
Alors, les ingrédients pour 4 personnes. Il nous faut 12 belles noix de Saint-Jacques sans leur corail. J'ai pas de petite musique
si,
cette fois. J'avais peur. 6 oranges, 50 centilitres de jus de clémentine, 5 centilitres de cognac, 50 grammes de miel, toute fleur ou acacia, une cuillère à café de graines de coriandre, un bâton de cannelle, une étoile d'anis, 2 gousses de cardamome, 10 g de gingembre frais ou à défaut une cuillère à café de gingembre en poudre, 25 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin.
Ok, ouais. On a les ingrédients. Ensuite,
maintenant, on va lever les suprêmes des oranges. On les réserve. Alors,
ça, j'ai pas
compris. Alors Nicolas Baudin, notre réalisateur, sait pas ce que ça veut dire.
Bien évidemment.
Non plus, c'est quoi?
J'avoue, je lui ai dit tout à l'heure.
Il dit qu'il connaît que les suprêmes de poulet, lui.
Moi, je connais le groupe, les suprêmes.
C'est bien aussi.
Alors, c'est quoi les suprêmes?
Alors, en fait, les suprêmes, c'est la partie avec que de la pulpe qui se trouve entre les différents interstices de peau blanche qu'elles disent dans l'agrume. Donc, pour ça, rien de plus simple. On coupe au pôle notre agrume, on le pose à plat, on vient faire le tour de l'agrume avec le couteau, on le pèle à vif. Et là, on vient passer la lame le long des petites membranes, clac, 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 et on lève le suprême, comme ça on n'a pas les trucs dégoûtants.
C'est bon, Nicolas Baudin, vous avez compris? Oui,
oui,
elle
est très
bien, c'est bon, il a coupé les suprêmes.
Voilà, allez-y. C'est bien, si Nicolas comprend, on est bien.
C'est bon.
Donc, ensuite, on va les réserver. Dans une casserole, on va porter le miel à ébullition. On ajoute les suprêmes et l'intégralité des épices, puis on rajoute le cognac.
Suprême de clémentine, hein, pas de poulet, hein, Nicolas.
Non, d'orange en l'occurrence.
D'orange,
parce
d'accord.
que clémentine, on peut le faire, mais c'est trop petit.
C'est pour le jus, la clémentine.
Exactement.
Okay.
Ensuite, on va déglacer. Déglacer, on a appris ça.
Oui, alors on met de l'eau froide dessus, non?
C'est un liquide froid.
Ça peut être du vin blanc, ça peut être
tout ce qu'on...
Voilà.
Oui, mais ça peut être aussi des choses sans alcool, ma
oui,
chère Mélanie.
Oui, je sais pas pourquoi j'ai tout de suite le vin blanc qui
c'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël.
Donc on déglace avec le jus de clémentine, on laisse réduire à frémissement jusqu'à obtention d'une texture de marmelade.
Voilà, ça on a fait la compotée.
Et pour les Saint-Jacques, poêle légèrement huilé, feu vif, Saint-Jacques, 30 secondes sur chaque face.
Vous faites bien la Saint-Jacques,
refaites
Jack-Jack.
Ouais, attendez, il y en a 12.
J'ai vachement bossé. Hein. J'ai fait par deux, donc ça va. Et ensuite, on ajoute le beurre, toujours à la fin le beurre, juste pour donner du bon goût. On éteint le feu, on sert les petites Saint-Jacques, clac, 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 trois par personne. Un petit peu de compotée de clémentine sur le dessus.
C'est pas
et
mal.
C'est
hein.
Mais elles sont pas cuites. En
si,
fait,
elles sont saisies.
Légèrement saisies.
Ah oui, mais
on
dit pas
les faire cuire un petit peu plus.
Alors, quand on s'appelle Soisic, on fait pas trop cuire les Saint-Jacques.
C'est vrai, on fait pas cuire les Saint-Jacques, c'est là.
Très peu, ça cuit de peur. Faut juste les saisir.
Et pourquoi du beurre? C'est obligé le beurre.
Parce que c'est bon le beurre, c'est Noël, on peut une fois de temps en temps.
Vous avez le droit à manger tout ce que vous voulez là pendant
jusqu'au 2 janvier, c'est bon.
Voilà,
d'accord.
Et on est d'accord, 30 secondes de chaque côté, c'est ce qu'on dit, c'est snacker la Saint-Jacques.
Exactement, on snack la
Saint-Jacques. Snacker Nicolas Baudin, notre réalisateur, c'est juste 30 secondes de chaque côté.
De toute façon, on sait quand t'allais snacker la Saint-Jacques parce qu'elle est un petit peu marron.
Exactement, pas trop non plus, parce que si elle devient trop marron, c'est qu'elle est trop cuite.
Nathalie Le Breton, là pareil, vous l'appelez Le Breton, vous l'avez snacké la Saint-Jacques.
Oh, inutile de vous dire qu'elle n'a aucun secret pour moi.
Eh bien, merci beaucoup Grégory pour cette belle mise en valeur de ce produit qu'on adore. Ça donne encore de nouvelles idées pour la faire autrement cette année sur nos tables de fête ou même d'ailleurs un autre moment de l'année.
Oui,
hein,
il
merci.
A dit jusqu'au 15 mai, il y en a la Saint-Jacques, on peut y aller. Hein.
Bon, on va rester encore un petit peu ensemble, d'autant plus qu'on va pas tarder à s'amuser avec la chronique de Soisic Belin. Elle va nous présenter un bar d'un nouveau genre. Vous savez, il y a des bars à tout maintenant, même des bars à jeux en fait. Elle va nous expliquer ce qu'on y fait précisément. Et puis juste après, Nathalie Le Breton, notre Madame Livre, va nous aider à nous évader avec sa sélection de bouquins complètement dans l'esprit de Noël, du plaisir pour les grands comme pour les petits, ce midi sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. Autour de la table, nos trois chroniqueurs de chic et de choc sont toujours avec nous. C'est tellement 80 cette expression, j'adore. On s'est bien régalé juste avant avec les coquilles Saint-Jacques de Grégory. Et à présent, on va jouer, enfin vous allez nous présenter, Soisic Belin, un type de bar assez nouveau dans lesquels on s'amuse bien, je crois. Hein.
Alors pas si nouveau que ça. La tendance du bar à jeu se vérifie de par sa profusion, mais ça existait déjà depuis un petit moment. Alors il y en a partout aujourd'hui en France. Et puis finalement, ce qui compte
dans le bar à jeu, le plus important, ce n'est pas l'aspect du bar. Le but n'est pas que vous soyez concentré sur votre boisson, mais que vous jouiez. Donc le bar est uniquement là pour vous désaltérer et pour la sociabilité que cela implique. Alors je me suis rendue au Oya, un bar à, enfin un lieu de jeu, qui a ouvert ses portes en 1995.
Ah oui.
Le lieu n'est ni trop petit ni trop grand. Il y a plusieurs tables, des tables hautes, des tables bordées de banquettes, comme on pourrait trouver dans un diner. Ici, c'est le confort qui prime. Et ce qui est frappant dès l'entrée, c'est la quantité de jeux qui s'empilent un peu partout. Il y en a, il y a même un coin réservé pour les plus jeunes, les 2 ans et demi, 3 ans.
Ah oui.
Avant cela, les jeux de société qui impliquent que l'on suive et respecte des règles, c'est pas forcément évident.
Voilà. Mais alors, comment ça se passe dans un bar à jeux concrètement alors ?
Alors, dans un bar à jeux, je sais que vous trépignez de savoir ce qu'il en est. Alors, voici une partie de la réponse par le responsable du lieu.
On va conseiller, parce que je trouve que les gens qui choisissent un jeu par la boîte, c'est souvent trompeur, c'est pas un beau dessin qui sera un bon jeu, et surtout un jeu approprié au groupe. Donc on discute avec le groupe pour savoir ce qu'ils recherchent, qui ils sont. On conseille des jeux, ils en choisissent un, on explique la règle toujours. Et voilà, ils peuvent rester jouer aussi longtemps qu'ils veulent. Ils payent juste quand ils changent de jeu.
Voilà, le système est assez simple. Vous payez selon le nombre de jeux que vous allez vouloir tester et non selon le temps que vous passez dans le lieu. Cela laisse le temps aux joueurs d'apprivoiser le jeu qui leur a été conseillé et puis ça évite de zapper continuellement sans persister davantage. Alors, qui dit jeu de société implique que l'on soit au moins 2. Bah et souvent, c'est quand même bien plus sympa à 3, 4, 5. Le dicton « plus on est fou, plus on rit » est assez juste.
Oui, non, mais ça veut dire donc que le jeu de société, quand on est seul, c'est pas possible, à part si on trouve une version en ligne et qu'on joue contre un ordinateur, soit-il.
Voilà. Alors ça, c'était avant. Ici, au Oya et dans d'autres bars à jeux, même seul, vous pouvez taquiner le plateau, vous pouvez venir tenter l'expérience du jeu avec des inconnus. Si, si, et c'est le propriétaire qui nous l'assure. Il vous suffira juste de laisser votre timidité à l'extérieur.
C'est vraiment un plaisir de jouer avec des inconnus. Vous découvrez notre façon de jouer. Il n'y a pas de rapport de séduction. Il y a vraiment un côté, on partage quelque chose ensemble. C'est l'intérêt du jeu. Ça s'appelle jeu de société. Et il y a plein de pays, y compris l'anglais, hein. En japonais, c'est board game. En chinois, c'est chuoyo, c'est jeu de table, ça veut rien dire. Alors qu'on peut jouer sans table. Il y a des jeux ici, on peut jouer dans un canapé sans table ou on peut jouer en parlant. Ce qui caractérise le jeu de société, c'est que c'est un jeu qu'on joue en société, qu'on joue avec d'autres personnes. C'est le plaisir d'être à plusieurs, à partager quelque chose. Donc, les gens qui viennent aiment jouer. Et en général, si vous êtes, qu'on soit peu sociable, vous allez pouvoir vous mêler à d'autres groupes. Puis ça fait des bons souvenirs pour tout le monde.
Bah oui, voilà, bah oui, bien sûr.
Et puis faire des rencontres, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant que l'on a réglé l'histoire de « Je suis seule, c'est pas pour moi », eh bien si, c'est aussi pour vous. On peut passer à la partie « Que sais-je » de ma chronique. Le jeu de société, comme son nom l'indique, est en adéquation avec la société dans laquelle il a été créé. L'époque, le mode de vie, tout ça compte. Il va répondre à certaines de nos problématiques. Il va permettre de nous évader. Et c'est pour ça qu'il serait difficile aujourd'hui de prendre plaisir à jouer au jeu de loi, par exemple, ce serait trop long et trop plat.
Moi, j'aime bien.
Moi, j'aime bien. Une puissance 4, c'est sympa. Et c'est pour ça que les classiques de notre enfance sont un peu pimpés au goût du jour. C'est le cas du Monopoly, par exemple.
Ça marche toujours, mais quand il est avec les Avengers, quoi.
Voilà, on le vend à toutes les sauces, à coup de licence. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux qui se jouent à 2 ou 3 pour des familles moins nombreuses qu'autrefois. C'est pour ça que l'on accorde de plus en plus d'importance aux party games, comme le fameux blanc manger coco.
Ah oui.
Voilà, des jeux qui ne nécessitent pas de passer des heures sur la compréhension des règles et qui permettent de créer une ambiance chaleureuse entre amis.
Mais dites-moi, les confinements successifs, ça a dû permettre justement de relancer les jeux de société. On pouvait imaginer qu'ils avaient été trustés jusqu'alors par les jeux vidéo, mais ils ont pris leur revanche ou pas ?
En effet, les confinements ont permis aux classiques Scrabble, Trivial Pursuit, Millboard, Codename de se faire une nouvelle jeunesse, de sortir des placards et puis, à la sortie du confinement, le goût du jeu étant là, les nouveaux jeux ont trouvé preneur. Seul petit bémol à ce joli storytelling, le marché du jeu de société a explosé. C'est plus de 800 nouveaux jeux par an.
Oui,
vous imaginez la férocité du milieu. Trop de jeux tue le jeu. Aujourd'hui, donc, difficile de se démarquer lorsque l'on est un nouveau créateur. Donc, au Oya, toujours ce même bar à jeux, le bar A, on aide en éditant certains jeux, en les mettant en avant. Le marché du jeu, c'est un peu comme le marché du livre. Il y a des récompenses, comme celle du jeu de l'année qui a lieu en février à Cannes, qui assure aux jeux primés d'être dans des rayons dédiés à la rentrée de septembre et ensuite d'être sous votre sapin à Noël. Alors, bon conseil, pour Noël, quoi de mieux que de s'emparer des jeux de société pour éviter les fameuses prises de bec familiales ? Vous resserrerez les liens, vous adoucirez les
chez moeurs. Moi, c'est pas sûr.
Il y a beaucoup de mauvais joueurs. Hein, ouais. Donc, nous, on les range.
Bah, voilà.
Ma mère, elle veut toujours faire la banquière ou Monopoly, ça m'énerve. Ah
ouais, mais clair. Vous flatterez les égos, votre égo et celui de vos proches. Et si vous êtes seul à Noël, pourquoi ne pas en profiter ?
Ah, bon, on a compris, pour aller au bar
à... du fameux bar à jeu.
On fête Noël là-bas.
Bûche et coupe de champagne offerte.
Et surtout, amener des Saint-Jacques pour pécho,
bien snacker. Merci beaucoup, Swazik. C'était très intéressant. Et après, les bars à chat, les bars à sourcils, les bars à sieste, pourquoi pas aller tester donc les bars à jeux ? Ça a l'air très convivial. Merci pour la découverte, en tout cas. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Nathalie Le Breton. Pardon, je suis troublée. On continue à parler de Noël avec vous, sa magie et ses livres pour enfants qui sont l'occasion à la fois de patienter et d'entretenir l'esprit de Noël autour de valeurs comme le partage, l'entraide.
Le fameux esprit de Noël. Et alors, évidemment, ce qui est un peu délicat, hein, c'est que ce Père Noël, personne ne l'a raconté. Bien sûr, il y en a des tonnes, mais personne ne l'a vu.
Me dites pas qu'il n'existe pas.
Ah, mais pas du tout, justement. Ah. C'est ce que je
l'ai vu une fois quand j'avais 6 ans.
Vous l'avez vu ? Vous avez de la chance. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais en revanche, j'adore cette magie. Et donc, effectivement, c'est le moment de calmer un petit peu les enfants. On est à J-4, hein, à peu près, c'est ça. Et l'excitation monte terriblement. Et donc, on ne sait pas quoi faire. Ils veulent absolument que ce soit dès demain, que les cadeaux arrivent, etc. Qu'il y ait la fête avec la famille. Premier livre pour les tout-petits. C'est le Père Noël des escargots. Ça, celui-là, vous n'avez pas vu. Alors, c'est un scoop pour Romain Desarbres.
Non.
Alors, le Père Noël des escargots, il est juste sublime. Je vous présente un peu les illustrations. On a l'impression que ça a été dessiné pour l'enfant. Eh bien oui, on est le lendemain de Noël. Eh oui, déjà. Sauf qu'il y en a un qui bosse. C'est le Père Noël des escargots. Ben oui, parce que le voilà parti, vous imaginez, à vitesse d'escargot. Comment on fait pour aller l'année d'après et être à l'heure ?
Il faut déjà partir le lendemain de Noël.
Il faut partir. Non, mais c'est un courageux, celui-là. Ah bah oui. Et évidemment, il est aidé par le renard qui, pendant l'hiver, lui propose sa fourrure pour commencer un petit peu à marcher. Ensuite, au moment du printemps, c'est une hirondelle qui le porte pour qu'il aille de plus en plus vite. Mais comme il est gourmand, bien sûr, il tombe dans un jardin, il mange de la salade et évidemment, il perd du temps. Donc là, il reprend un papillon qui va l'aider. C'est l'été, l'horreur pour un escargot, évidemment. Il n'y a pas d'eau.
Oh là là.
Donc, le papillon fait goûter un peu d'eau pour que le Père Noël des escargots arrive à l'heure et il arrive à l'heure. Ah. Mais c'est une façon de communiquer avec les plus petits sur ce temps qui passe qui est nécessaire pour que cette fête soit la plus
soit encore
jolie
plus belle,
possible. Ouais. Ça, c'est le Père Noël des escargots.
Mais
c'est
très bon génial. Avec
Très bon avec une persillade.
Ça, c'est pour les petits.
Alors là, vous n'allez pas vous faire des amis, Grégory. Hein.
Nathalie, ça, c'est pour les petits à partir de 2-3 ans, c'est ça. Mais pour les plus grands, je pense qu'il va falloir les occuper plus concrètement pour patienter. Est-ce que vous auriez, autre chose dans votre hôtel livre ?
Ça sent le vécu,
oui,
Julia.
Exactement.
Voilà. Alors, le Noël des crayons, c'est super astucieux pour les parents que nous sommes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est adoré par les enfants, parce que le crayon, la boîte de crayons a évidemment 10 000 aventures. Et là, donc, nous sommes en période de Noël, et les crayons vont recevoir régulièrement des mots de leurs parents qui sont loin et qui pensent à eux, etc. Et donc, évidemment, là où c'est habile, c'est que ce sont des crayons. Et vous savez que c'est quand même les amis préférés des bébés. Et donc, dans ce livre, arrive un courrier pour Monsieur Pêche, par exemple. Et les parents sont extrêmement inquiets parce qu'il est un peu frileux, etc. Et donc, vous avez à chaque double page un courrier. À l'intérieur de ce courrier, vous avez une carte postale.
Des parents,
ça, les super enfants, sympa. Et à l'intérieur, bien sûr, les parents, ils pensent à leur petit péchou, le petit couleur pêche. Lui, il a froid. Donc, vous avez ici fabriqués. Vous savez comment on faisait quand on était petit ? Ces petits habits, des costumes, et on peut s'amuser à déguiser. Et l'aventure commence, l'aventure s'emballe parce que des couleurs, il y en a des tonnes. Et donc on continue, et ça donne une idée au petit garçon qui a ses crayons, bien sûr, de passer à quoi comme activité ? La déco du sapin. Et ça lui donne d'autres idées. Et vous voyez ici qu'il y a un autre courrier. Et c'est pas que le plaisir, si vous voulez, de ces courriers qui arrivent, de ces jeux qui sont à l'intérieur, de chaque enveloppe à l'intérieur du livre. C'est qu'évidemment, tous ces personnages réagissent. Et que quand vous avez le sucre d'orge, vous savez, ces espèces de cannes rouges et blanches qu'on n'a jamais osé goûter parce que franchement, ça n'a pas l'air très bon. Hein, et alors lui, évidemment, il se rebelle, ce sucre d'orge, parce qu'il dit, mais enfin, ça fait juste juste 20 ans que vous me ressortez du carton à déco, j'aimerais bien être enfin sucée, si j'ose dire. Et ça continue comme ça, voilà, et vous allez assez loin. Non mais alors vous me chauffez avec vos histoires de snack.
Déjà monsieur Pêche, une tête un peu bizarre.
C'est et donc vous l'avez compris, il y a plein de constructions.
C'est un jeu,
à faire.
C'est un livre participatif,
et là vous avez quelque chose, ils participent, ils se mettent sur la déco et ça vous aide à timer évidemment l'avant de Noël.
Alors outre les préparations diverses, les bons repas passés en famille, les cadeaux qui vont arriver, ce qui est important à Noël, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Noël, un peu comme la pensée magique.
Mais oui, la pensée magique, les belles valeurs quand même, faut y penser parce qu'on a des enfants qui sont élevés dans une société qui est extrêmement consumériste. Là on est vraiment sur le dilemme de l'être et l'avoir. C'est important de communiquer avec ça quand même avec les enfants. Il n'y a pas que l'attente des cadeaux qu'on va peut-être jeter dès le lendemain. Il y a aussi d'autres choses. Je voulais vous présenter le jouet brisé. C'est un conte de Noël moderne qui nous vient des Québécois. C'est toujours assez sorti chez Bagnole Édition. Et c'est tout simplement l'histoire d'un homme qui traverse une période un petit peu difficile, une période de chômage. Il retrouve un petit boulot. On lui demande, vous les connaissez, hein, ces faux personnages voilà, dans les magasins qui se déguisent en Père Noël. Et puis arrive un petit garçon avec un jouet complètement cassé. Et il va faire son boulot. Le monsieur, il prend le jouet et il va lui réparer. Et ça va se dire dans toute la cité. Tous les enfants vont venir avec les jouets cassés. Et ce monsieur, bien sûr, va réparer. Ça lui
met le
chaud au corps. Et bien sûr, il va avoir du travail. Et il va créer la boîte à réparation de Monsieur Noël.
Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle sélection de livres qui ont vraiment l'air charmants et qui donnent quelques idées de cadeaux pour les plus jeunes. Si on n'a pas encore passé, évidemment, toute la commande au Père Noël, on peut justement y ajouter quelques livres. Merci à tous les trois pour vos conseils, pour vos bons plans.